France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la violence gratuite massivement subie par les homos, les bisexuels et les transgenres. Chiffre édifiant d'une étude de l'IFOP révélée ce matin et témoignage dans un instant. Les Balkany, époux à la ville, à la Seine et au tribunal, poursuivis pour fraude fiscale et corruption. Leur procès commence aujourd'hui. Ceux qui croyaient au danger du glyphosate et ceux qui n'y croyaient pas, un rapport sénatorial conclut à l'absence de preuves pour incriminer l'herbicide. Au sommaire également les élections européennes, début de la campagne officielle et première invitée de la dernière quinzaine avant le scrutin sur France Inter, Nicolas.
Oui, ce sera dans le cadre d'un grand entretien spécial. Nous recevrons tous les jours, cette semaine, la prochaine, l'une des têtes de liste engagées dans la campagne. Et ce matin, c'est Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste, qui est notre première invitée. Vos questions 01 45 24 7000.
Le Brésil et le budget de l'enseignement et de la recherche là-bas amputés d'un tiers. Nous entendrons la colère des étudiants et des professeurs. On verra qu'Air France s'apprête encore à réduire ses effectifs, annonce attendue dans la journée. Et puis Visorec sur les planches, l'ami Alex anime ce soir la grand-messe du théâtre, la cérémonie des Molières.
France Inter.
Se faire insulter ou frapper pour ce qu'on est, agresser parce qu'on est gay, bisexuel ou transgenre. Plus de la moitié des 1200 personnes interrogées par l'IFOP l'ont vécu au cours de leur vie. Et à la lecture de cette enquête publiée ce matin par France Info, on est frappé par cet autre chiffre, par ces 20% de sondés qui disent avoir subi des violences physiques simplement à cause de leur identité sexuelle. Ce qui est arrivé à ce jeune couple de l'Ain que Jérôme Jadot a rencontré dans le petit village de Tenay, qu'ils vont bientôt quitter.
Ce 28 novembre, vers 20h, Samuel raconte être dans son jardin avec son conjoint Nicolas pour rentrer leur chien. Le jeune couple, installé dans le village depuis 2 ans, est famille d'accueil pour des enfants placés. Ce soir-là, dans le noir, un homme les interpelle depuis la route.
Il nous faisait des appels avec sa lampe et quand on s'est approché, cette personne a commencé à nous insulter.
Avec son téléphone, Samuel capte une partie de la scène.
Oui, un PD. Oui, un PD.
Alors son visage.
Sale PD, sale tapette. Il nous a menacé notamment de nous enfoncer avec des objets. Et ensuite, c'était les menaces de mort. Cette personne est rentrée dans notre jardin en courant avec une serpette à la main. Et c'est mon conjoint qui a pris le coup, donc à la main. Et au ventre.
Son compagnon s'en tirera avec 4 points de suture au doigt. L'agresseur, qui est en fait un voisin, vit toujours dans le village. Selon l'avocat du couple, une procédure de plaidé coupable est en cours. Pour Samuel et Nicolas, les séquelles de cette agression se font encore sentir.
Psychologiquement, c'est difficile. Mon conjoint est sous traitement pour dormir. Quand on sort dans notre village pour emmener nos enfants à l'école, descendre à l'épicerie, etc., on montre moins que nous sommes en couple. On fait en sorte de passer plus ou moins inaperçu. Les câlins, les bisous, se tenir la main, tout ce genre de choses, c'est plus envisageable.
Une situation qui a même poussé les deux jeunes hommes à vendre leur maison. Dès cet été, ils s'exileront dans un autre département.
Et interrogé par l'IFOP, 7 personnes LGBT sur 10 expliquent qu'elles mettent en place des stratégies d'invisibilité dans leur vie quotidienne pour éviter les agressions. Balkany Patrick, maire de Levallois-Perret, Balkany Isabelle, première adjointe au maire. Ainsi déclineront-ils leur identité aujourd'hui au tribunal de Paris. Pour monsieur, c'est sûr. Pour madame, il y a un doute. Elle est hospitalisée depuis le 1er mai pour avoir absorbé trop de médicaments. Si le procès a bien lieu, ils devront répondre de fraude fiscale et de blanchiment notamment. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
On va beaucoup parler immobilier et montage financier dans ce procès.
De la Suisse à Singapour en passant par le Liechtenstein et Panama, l'enquête a fait le tour des paradis fiscaux pour dévoiler des comptes cachés, des prête-noms, des sociétés écrans. Patrick Balkany nie toujours être propriétaire du riad de Marrakech, malgré, pour l'anecdote, les peignoirs brodés à ses initiales. En revanche, Isabelle Balkany reconnaît la villa Pamplemousse aux Antilles. Isabelle Balkany, qui à l'approche du procès a craqué face aux attaques, son avocat Pierre-Olivier Sûr.
Elle est devenue un bouc émissaire qui représente aux yeux de l'opinion le pire du monde politique. Et voilà que pour une fraude fiscale, il faut qu'elle tente de mettre fin à sa vie parce que c'est devenu insupportable. Sur tous les réseaux sociaux, les propos antisémites et orduriers, les sauts de vomi qu'elle reçoit à la gueule tous les jours. C'est une femme qui, envers et contre tout, a toujours été solidaire et fidèle et amoureuse de son mari.
Alors Isabelle Balkany est poursuivie pour fraude fiscale, mais ça n'est pas tout pour son époux. Sarah, il devra lui répondre aussi de corruption puisqu'il fallait bien se les payer, ces villas.
Les Balkany font valoir leur fortune familiale, mais pour les enquêteurs, l'héritage ne suffit pas à expliquer leur patrimoine et leur train de vie. Il faudrait plutôt regarder du côté des entreprises qui travaillent pour la mairie ou avec Patrick Balkany. Ce système de corruption serait ancien. Celui qui a rallumé la mèche judiciaire le connaît bien, Didier Schuller, condamné en 2007 dans une affaire de financement du RPR dans les Hauts-de-Seine. En 2013, il règle ses comptes, ce que je pensais être du financement politique a servi à des fins personnelles, dit-il. Un exemple, le promoteur saoudien pressenti pour les tours de Levallois aurait payé la moitié de la villa de Marrakech, plus de 3 millions d'euros. Et pour y aller, il prêtait son jet privé.
Sarah Guibaudot, merci, c'est vous qui allez suivre ce procès jusqu'au 12 juin. Et Patrick Balkany est toujours maire de Levallois, élu depuis 1983, à l'exception d'une mandature dans les années 90. Malgré des années de soupçons et une première condamnation pour avoir employé chez lui du personnel rémunéré par la mairie, les électeurs n'en ont pas tenu rigueur à leur édile, ce qui stupéfie Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor et partie civile au procès.
Nous, on se pose la question, comment quelqu'un comme lui peut toujours être là, malgré les rapports, malgré les indices concordants, malgré les aveux même de Madame Balkany en 2014 et les aveux partiels de Monsieur Balkany en 2016. Ils sont toujours en place, malgré le rapport calamiteux de la Cour des comptes sur la gestion de Levallois-Perret. Cette affaire montre à peu près les faiblesses de notre République. Tout a dysfonctionné, de l'électeur au président de la République en passant par la justice et les services préfectoraux. Et aujourd'hui, on a Patrick Balkany qui n'est pas encore condamné, qui a déjà annoncé qu'il allait se représenter et peut-être même qu'il va être réélu.
Voilà, ouverture de ce procès Balkany aujourd'hui à 13h30.
Il est 8h07, Florence, quand 16 sénateurs se penchent sur la dangerosité du glyphosate.
Et en déduisent que rien ne prouve qu'il est cancérigène. C'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques qui s'est penché de longs mois sur les études disponibles. Il va rendre son rapport jeudi, dirigé par Pierre Medevielle, sénateur UDI du Lot-et-Garonne, pour qui la peur de cet herbicide est une névrose bien française, Véronique Julia.
Pourquoi tant de haine? Le rapporteur Pierre Medevielle évoque un climat d'hystérie autour du glyphosate. D'autres produits utilisés en viticulture me gênent bien davantage, dit-il, que cet herbicide, qui serait donc, il l'affirme, moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Le sénateur centriste de Haute-Garonne s'appuie, pour en être aussi convaincu, sur la littérature scientifique.
On a réuni toute la littérature qu'on pouvait, on a des résultats d'agences indépendantes, d'agences d'État, de laboratoires de 17 pays différents. Et je n'ai pas, moi, aujourd'hui en main, la moindre étude qui prouve la cancérogénicité du glyphosate.
Pour être plus exact, la littérature en question n'est pas totalement unanime. En 2015, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui émane de l'OMS, avait classé le glyphosate comme cancérogène probable. Le député européen José Bové ne décolère pas. Dire que le glyphosate n'est pas dangereux, c'est comme prétendre, dit-il, que le réchauffement climatique est un fantasme.
Les arguments qui sont repris comme quoi le glyphosate est moins dangereux que la consommation de viande rouge ou de charcuterie, c'est quelque chose qu'on entend dans la bouche de Monsanto depuis des années. Donc ça fait partie des éléments de langage. Donc je dirais qu'on est dans de la propagande.
Ne vidons pas la trousse à pharmacie, insiste encore le sénateur Pierre Medevielle. D'après lui, supprimer les pesticides risquerait de nous faire revenir, je cite, aux grandes famines du Moyen-Âge.
Voilà pour ce rapport et ces réactions qui ne dissiperont pas la confusion autour du glyphosate. La molécule est le principe actif du Roundup de Monsanto qui a présenté ses excuses hier pour avoir fiché une série de personnalités en fonction de leur position sur l'herbicide controversé interdit aux particuliers en France et aux agriculteurs dans 3 ans.
Il est 8h09, 34, liste 34, Florence, pour une élection.
Les européennes auront lieu dans 15 jours et ce lundi marque le début de la campagne officielle des spots télé et radio, de l'envoi des professions de foi, de l'installation des 34 panneaux d'affichage devant chaque bureau de vote et des candidats tous les matins à 8h20 sur France Inter pour cette campagne qui a démarré tard, Yael Gauz, et dont vous nous rappelez ce matin les enjeux et les duels.
Alors, première bataille, la participation, elle était de 42% en 2014, c'était déjà très faible à l'époque. Abstention plus record de liste dans ce cru 2019, le risque est donc maximal de voir les voix s'éparpiller. La priorité dans la dernière ligne droite d'un scrutin à un seul tour, c'est donc de mobiliser son socle, son camp, d'où cette campagne qui se nationalise. Marine Le Pen joue à fond la carte du vote sanctionné. Le président de son côté ravive le vote utile, progressiste contre nationaliste. Premier ou deuxième à l'arrivée, ça change tout pour la suite, Florence. La dynamique, les réformes, la crédibilité à l'échelle de l'Europe, voire un remaniement à court terme, match à deux, non à trois, espèrent encore les Républicains. Bellamy stoppe l'hémorragie, mais sous les 15%, la droite n'est pas encore de retour. Pour l'instant, elle ne fait que résister à l'OPA d'un Dupont-Aignan en difficulté. À gauche, match à couteau tiré Mélenchon-Jadot, pour savoir qui sera le 26 mai au soir en position de force pour recoller les morceaux d'une gauche en lambeaux. L'heure est grave au PS, pas encore assuré d'avoir des élus à Strasbourg, ce qui n'est encore jamais arrivé. Dans la zone rouge, Benoît Hamon, les communistes et l'UDI. Sous les 5%, vous n'avez aucun député et il faut faire 3% pour être remboursé. Enfin, 3 listes pour les Gilets jaunes, 2 autres pour le Frexit et une myriade d'inconnus ou de figurants. Il reste 2 semaines pour faire mentir les sondages, globalement très stable depuis la fin avril.
Yael Gauz, merci. À 15 jours des européennes, Donald Trump offre une tribune au Hongrois Viktor Orban, reçu aujourd'hui à la Maison Blanche. L'Américain est une icône souverainiste pour le Premier ministre hongrois, accusé de saper la démocratie dans son pays et exclu de la droite européenne. Au Brésil, autre pays du populisme, face au gouvernement qui va baisser le budget de l'enseignement supérieur de 30% et mettre fin aux bourses de recherche, les étudiants et les professeurs se mobilisent. Ils appellent à la grève générale mercredi, Anne Vignat.
Ce furent d'abord les cours de sciences humaines rayés du cursus universitaire, puis 3 universités brésiliennes punies pour être trop contestataires. Et maintenant, le gouvernement a décidé d'amputer l'ensemble du budget de l'enseignement supérieur, nous explique Sylvia. Elle est doctorante en géographie et elle manifestait ce week-end à Rio de Janeiro.
Ils ont annoncé des coupes budgétaires jusqu'à 52% dans les universités publiques. D'abord dans 3 universités, mais maintenant ils l'ont étendu à l'ensemble des universités. Et ils ont aussi réduit le budget de l'éducation primaire. C'est vraiment un projet de l'extrême droite de casser l'éducation. Ils ont le même objectif, le culte de la médiocrité, en supprimant les cours de sciences humaines.
Pour les chercheurs comme Luciana, la mesure est déplorable pour la science.
Cette coupe budgétaire va aussi affecter la production académique et scientifique, qui a une importance énorme au Brésil et qui est d'excellente qualité pour un pays en développement.
Le moment de protestation est général dans les universités et selon les sondages, la mesure est désapprouvée par la population. Les universitaires espèrent donc gagner cette bataille, le président Bolsonaro ayant déjà changé souvent d'avis en 4 mois au pouvoir. Rio de Janeiro, Anvilla, France Inter.
Et pour sauver la forêt dans un Brésil où le lobby de l'agroalimentaire a tout le soutien du président Jair Bolsonaro, le chef Raoni reprend son bâton de pèlerin attendu à Paris pour le début d'une tournée européenne. Le légendaire indigène à plateau va de nouveau dénoncer la déforestation de l'Amazonie. Il a rendez-vous avec Emmanuel Macron et avec le pape François notamment. La France réforme sa fonction publique. Le texte arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Il y est notamment question d'un recours accru aux contractuels pour lesquels une prime de précarité est prévue quand leurs contrats seront courts. La suppression de 120 000 postes de fonctionnaires ne semble plus à l'ordre du jour.
Il est 8h13 et voilà un nouveau plan de départ volontaire chez Air France.
Plusieurs centaines de salariés dans la charrette qui travaillent actuellement dans une douzaine d'aéroports français. Ce sera la première annonce délicate du nouveau PDG de la compagnie, Ben Smith. Alors à quoi faut-il s'attendre, Philippe Lefebvre ?
Eh bien, la direction d'Air France compterait sur 465 départs volontaires. Ce plan viserait essentiellement les personnels au sol des aéroports de Nice, Marseille, Strasbourg et aussi d'Orly. En interne, on évoquerait des problèmes de sureffectif dans ces aéroports, mais surtout la nécessité d'une restructuration du marché domestique, en clair des vols intérieurs, fortement concurrencés par le TGV. Les arguments qui sont ceux de Ben Smith, le patron de la compagnie, qui l'été prochain fêtera sa première année aux commandes du groupe Air France KLM, mais Jérôme Borin, le délégué sud de la compagnie nationale, n'accepte pas ces explications et pour lui, la réaction des salariés de la compagnie se résume en un mot.
Déçu parce qu'il devait nous proposer un plan ambitieux. On s'aperçoit que c'est exactement les mêmes ficelles qui sont tirées, c'est-à-dire nous dire qu'on est trop cher, taper sur la masse salariale, faire baisser les effectifs et puis gagner de la productivité.
Pour les passagers, ce plan pourrait aussi avoir des conséquences. Les syndicats redoutant qu'Air France réduise de 10 à 15% certaines de ses rotations et supprime des liaisons entre les métropoles de province. Mais cela pourrait faire les affaires de certaines compagnies à bas coût, déjà très présentes sur des lignes comme Paris-Nice ou Paris-Toulouse.
La fin de l'anarchie des trottinettes électriques à Paris. La mairie convoque aujourd'hui 11 opérateurs pour leur faire signer une charte de bonne conduite. Ils devront s'engager à ne pas laisser traîner leurs engins en tas sur les trottoirs, mais à les garer dans des emplacements prévus, ce que la ville pourra contrôler. Ils devront aussi inciter leurs utilisateurs à porter un casque. À 2 jours de la fin du championnat de Ligue 1, c'est du foot. Les Lyonnais ont solidifié leur leur troisième place et leur qualification pour la Ligue des Champions qui va avec. En estourbissant Marseille 3-0, les supporters de l'OM ont d'ailleurs tenté d'envahir la pelouse et se sont battus avec les forces de l'ordre hier soir à l'extérieur du stade. Quant à Lille, plus de soucis à la deuxième marche du podium et dans les starting blocks pour la Ligue des Champions, c'est fait. Les nordistes ont battu Bordeaux 1-0 hier. Enfin, juste avant le festival de Cannes, demain, place ce soir à la grand-messe du théâtre. Nicolas, la 31e nuit des Molières, le canard à l'orange et Kin raflent la mise des nominations. Et pour animer cette cérémonie, le camarade Alex Vizorek. Alex Vizorek est une œuvre d'art, c'était le nom de son spectacle, et ça n'est pas par hasard si c'est lui qui a été nommé.
On est un grand chef d'orchestre. Tous les remettants qui viennent, bah, on les a appelés, on les a rassurés, on leur a demandé ce qu'ils voulaient dire. Certains ont écrit, mais d'autres non. Et donc, on essaye, évidemment, que tout fasse sens et s'emboîte bien. L'an dernier, c'était Zabou qui avait fait une soirée qui lui ressemblait, très fort. Et cette année, je me suis dit, si on m'avait choisi moi, c'est parce que il voulait que ça rigole. Si on s'amuse pas sur scène, le public s'amuse pas. Donc, il y a des numéros préparés, il y a des gens de la Comédie Française qui ont accepté de m'écrire des choses pour venir les jouer ce soir. Donc, évidemment, ils ont envie de bien faire. Et il y a un côté... des enfants qui s'amusent entre gens du métier. Il faut pas oublier le public qui lui fait pas partie de la famille et qu'il faut aussi concerner et à qui il faut donner envie d'aller au théâtre.
Alex Vizorek, maître de cérémonie de cette nuit des Molières, diffusée à 22h30 ce soir sur France 2. Alex qui est toujours en tournée avec son spectacle.
Mais oui, merci.
Vous n'avez pas la chance de l'avoir vu.
Non, pas encore. Merci Florence Paracuelos.